Bienvenue à vous tous dans ce temps de culte, un culte particulier, un culte de fête comme tous les cultes, et un culte dans la mémoire d'un événement particulier qui représente une date importante dans l'histoire de la Réforme, le jour où, dit-on, Martin Luther afficha sur la porte de l'église de Wittenberg ses thèses s'opposant à la pratique des indulgences et remettant l'Évangile au cœur de la foi. Ce n'est pas un culte pour glorifier le passé aujourd'hui. C'est un culte pour que passé et présent soient lus, relus et reliés à la lumière de la bonne nouvelle de la grâce offerte inconditionnellement. Alors aujourd'hui est un beau jour, un bon jour, pour redire à chacun et à chacune d'entre vous, oui, il est bon que tu sois ici, en présence ou par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Il est bon que tu sois ici, avec ton histoire, ton chemin, que tu sois ancien ou nouveau dans ce temple, de l'Église presbytérienne camerounaise ou de l'Église protestante unie de France ou d'ailleurs. Bienvenue. Bienvenue à toi. Bienvenue à tous. Car ce qui nous accueille, ici et maintenant, chacun et tous ensemble, c'est l'amour, la paix, la joie et la grâce de l'Éternel, notre Dieu. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous sommes venus, nous avons réservé ce temps. Et nous nous retrouvons, chacun en soi et les uns avec les autres. Alors nous te demandons de souffler sur nous ton Esprit Saint, qu'il élargisse notre cœur et notre intelligence, qu'il nous rende sensibles et ouverts à ta présence, qu'ils nous tiennent ensemble en écoute, en prière et en amitié. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier des spontanés du temps de ce culte. Viens en cette heure au tendre Père. Nous restons debout pour le temps de la louange dans laquelle va nous conduire Emmanuel Magnot, qui est le pont, le lien entre le foyer de l'âme et l'église protestante camerounaise.
Béni soit notre Dieu. Il nous a aimés avant que nous le connaissions. Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a donné Jésus-Christ pour nous dire qu'il nous aime. Il nous a donné l'Esprit pour que nous espérions. Béni soit notre Dieu. Il nous a fait sortir de l'impasse où nous étions. Il nous a donné sa parole pour nous éclairer. Il nous a donné Jésus-Christ pour nous ouvrir le chemin. Il nous a donné l'Esprit pour que nous retenions à lui. Béni soit notre Dieu. Il vient lui-même vers nous, avec nous, parmi nous, en nous. Il nous donne sa parole qui nous fait connaître sa bonté. Il nous donne Jésus-Christ qui est la résurrection et la vie. Il nous donne l'Esprit qui nous rend joyeux dans l'espérance. Béni soit notre Dieu. Alléluia.
Et nous poursuivons la louange par le chant du psaume 36. Ô Seigneur, ta fidélité, nous chanterons les deux premières strophes du psaume 36. Prenez place. Accueillons, frères et sœurs, ce que l'Esprit de Dieu fait monter en nos cœurs. La foi d'Abraham et la fidélité de Moïse. L'humilité de Rahab et la résistance de Job. Le courage d'Élie et l'audace de Ruth, la sagesse de Salomon et la persévérance de Jérémie, l'enthousiasme de Pierre et l'élan de la femme au parfum, l'espérance de Paul et par-dessus tout, l'amour de Jésus, maintenant et pour toujours. Amen. Nous ne chanterons pas le spontané indiqué sur les feuilles de liturgie. Nous allons écouter nos amis de l'Église protestante camerounaise.
Love.
Voici le moment de nous recueillir, chacun et ensemble, dans la prière de confession. Éternel notre Dieu, lorsque survient ta présence de calme et de paix, nous voyons bien dans quel tourbillon d'angoisse et de peur nous nous laissons emporter, dans quel marécage d'amertume, de stress, nous nous échouons, dans quel éparpillement d'activité et de justification nous nous dispersons. Qui es-tu, ô Éternel, pour t'intéresser encore à nous, pour ne pas nous abandonner à nos solitudes, à nos démons, à nos fuites, nos tabous, à nos blocages? Qu'y a-t-il donc entre toi et nous? Dieu du Christ, toi qui n'abandonnes pas les humains, Dieu de l'Esprit, toi qui toujours œuvres en nous, à quel autre irions-nous? Dieu du pardon, de l'espérance, de la paix, Dieu du relèvement, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon de la part de Dieu, un pardon qui va être dit par Jeanne.
Dieu est l'harmonie du monde. Il est l'espace protecteur. Il est la lumière dans la nuit. Il est la porte qui s'ouvre à nous. Il est l'ami toujours présent. Il est l'inconnu qui surgit. Il est le Dieu qui nous accepte. Il est notre vie, il est la lumière, la vérité, le chemin, il est notre sauveur en cet instant. Amen.
Et je vous invite à prendre dans le recueil de cantiques le numéro 279. Confie à Dieu ta route, nous le chanterons en entier.
Thank you.
Prenez place. C'est avec grande joie que j'accueille et que nous accueillons ici aujourd'hui la pasteur Pascal Grosbras, pasteur de l'Église protestante unie de France, qui, venant du DEFAP, est actuellement en intérim à la paroisse de Sèvres-Meudon-Ville-d'Avray, et puis qui effectue aussi un autre travail pour le conseil régional en ce qui concerne l'animation biblique. Et elle nous fait l'amitié de venir aujourd'hui pour nous apporter cette prédication du culte de la réformation. Et donc, à toi Pascal.
Nous allons ce matin encore lire et méditer un passage de la Bible. Nous demandons son aide à Dieu pour qu'il vienne nous éclairer. Nous prions. Notre Père, ta parole est pour nous une porte ouverte sur ton royaume. Donne-nous maintenant les yeux de la foi, de la confiance. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne pour que résonne ton évangile, ta bonne nouvelle. Amen. Parmi les textes du jour dans le lectionnaire se trouve aujourd'hui le texte bien connu de Zachée, le Zachée qui monte dans un arbre pour voir. Luc, au chapitre 19, les versets 1 à 10. Jésus entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus, mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. Et voyant cela, tous maugréaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Seigneur, ta parole est notre vérité. Enseigne-nous par ta vérité. Amen. C'est pas juste. C'est pas juste. Si vous êtes parent, si vous avez des petits dans votre entourage, vous connaissez sans doute le syndrome du biscuit cassé. Ce moment éprouvant où votre enfant, fatigué, éprouvé, affamé, prend un biscuit pour se remettre de ses émotions, et que malheur, le biscuit se casse entre ses doigts. C'est pas juste. En cet instant-là, pour cet enfant-là, c'est comme si tous les malheurs de la terre se concentraient dans ce biscuit cassé. C'est pas juste. C'est pas juste qu'une telle chose arrive, alors que je n'ai de contrôle sur rien dans mon existence, et que même cette petite chose-là m'échappe. C'est pas juste parce que ce qui devait me consoler, me réconforter, me confronte plutôt au non-sens de l'existence. C'est pas juste. Mais c'est pas juste aussi parce que ceux qui n'avaient rien fait sont morts. De façon absurde, sur la route des vacances. De façon honteuse, sur la route de l'exil. De façon malheureuse et parfois tragique, sur un lit d'hôpital. Toutes ces morts nous accablent. Toutes les morts n'ont aucun sens. Et chacun de nous a son propre biscuit cassé, ce moment où une toute petite chose finit par nous faire exploser de colère et de révolte face à toutes les grandes choses auxquelles nous ne pouvons rien. C'est pas juste. En effet, ça n'est pas juste. Être des humains d'une certaine façon, et les tout petits le découvrent très tôt, c'est être confronté à cette question en forme d'affirmation. C'est pas juste. Et c'est vrai que Jésus aille loger chez un pécheur, c'est pas juste. Il a fallu que ce type, qui fait l'andouille en montant dans les arbres et qui fait son intéressant pour attirer l'attention de celui qui, important, entre dans la ville, mais qui surtout est à la solde de l'occupation romaine et en tire un bénéfice substantiel aux dépens de ses frères juifs, il a fallu que ce soit lui que Jésus distingue et récompense. Où est la justice là-dedans? Il n'était pas digne de ce regard porté sur lui. Il n'était pas juste que Jésus le choisisse, lui, malgré tout. Et je les comprends, ceux qui ronchonnent, qui maugréent, en voyant Jésus interpeller Zachée en haut de son arbre. Le simple fait qu'il lui adresse la parole est déjà un scandale, alors qu'il est de bon ton plutôt de lui tourner le dos, de le mépriser de façon un peu envieuse, ce Zachée, celui qui n'est pas comme tout le monde. Il est de bon ton de se penser bien plus digne que lui d'être remarqué par Jésus. La dignité, c'est notre grande affaire, nous les humains, mais surtout quand ça touche à la nôtre. Et nous passons, en tant qu'êtres humains, une bonne partie de notre temps à essayer de nous sentir justifiés à nos propres yeux, aux yeux des autres, et sans doute aussi aux yeux de Dieu. Que faire pour être juste à ses yeux? Pour mériter qu'il nous regarde favorablement. C'est un penchant de l'âme humaine et il faut bien faire avec. Nous avons besoin de nous sentir justes, dignes devant Dieu. Et pourtant, ce texte, comme bien d'autres dans notre Bible, nous raconte une toute autre histoire. Parce que la justice de Dieu et la justice telle que nous la comprenons, ça n'est manifestement pas la même chose, même si nous essayons toujours de mesurer l'une à l'aune de l'autre. Et non, ça n'est pas juste. Je crois qu'en ce jour de la Réformation, c'est une des premières choses que nous disons. C'est pas juste. Au fond, c'est la grande révolution de la réforme que d'affirmer « c'est pas juste ». Une révolution qui plonge ses racines au plus profond des âges, mais qui nous projette vers un avenir, car la réforme protestante n'est pas la création d'une nouvelle religion, d'un nouvel ordre religieux destiné à supplanter les autres, c'est plutôt comme une graine planté au cœur de l'humanité pour réveiller cette certitude ancrée en nous. C'est pas juste. Et c'est une graine, un souffle, un presque rien, mais un presque rien qui ouvre à un autre avenir, à une nouvelle compréhension de Dieu, de la Bible, de l'histoire, des autres et de nous-mêmes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous fêtons la réformation, pas la réforme. La réforme, c'est un temps dans l'histoire, c'est un moment ancré dans une époque donnée, alors que la réformation, c'est un mouvement, un geste, une ouverture, toujours, vers l'avenir. Au fond, nous ne commémorons rien aujourd'hui, nous célébrons plutôt un mouvement qui continue à agir dans ce monde, qui vient travailler cette question. C'est pas juste. Au cœur de l'Ancien Testament, déjà, cette révolte contre une fatalité aveugle s'exprimait dans le livre de Job. Job, vous vous souvenez, est cet homme riche qui a tout, possession, respect de ses contemporains, une famille merveilleuse, une épouse fidèle, des amis et surtout un Dieu sur qui compter. C'est un homme plus que respectable. L'auteur ou les auteurs du livre de Job prennent un soin infini à présenter le portrait d'un homme parfait, plus que parfait, un parangon de vertu et de grâce humaine. Celui qui n'avait jamais rien fait de mal dans sa vie, que Dieu même respectait, et qui poussait le zèle religieux jusqu'à offrir des sacrifices, même pour des fautes qu'il n'avait pas commises, au cas où. Cet homme-là, s'il existait un grand livre des fautes et des mérites, il serait du côté des parfaits. Et s'il existait un grand livre des indulgences, il pourrait racheter tous les maudits du purgatoire. Alors vraiment, ce qui lui arrive, c'est pas juste. C'est même l'exact contraire de la justice. Et d'ailleurs, on nous montre un Job livré aux caprices du Satan, le diviseur, le fourbe, le malicieux. Personnage imaginaire, bien sûr, mais qui représente tous les doutes qui nous tenaillent. Toutes ces pensées mesquines et bien humaines. Pourquoi est-il bon, celui-là? Pourquoi est-ce qu'il a tout? Quel secret contrat passé avec Dieu pour que toutes ces bonnes choses lui arrivent alors qu'à moi, non? C'est pas juste. Comme s'il y avait un Satan en nous qui vient semer le doute au cœur de la foi la plus ancrée. Ce débat-là, cette douleur-là, le moine Martin Luther, quelques siècles après Job, la connaissait. Quand je dis doute, je devrais dire plutôt angoisse, et l'angoisse la plus profonde, de celle qui vous tient aux tripes de jour comme de nuit et ne vous laisse pas un instant de repos, juste des moments plus calmes. Et dans ces moments plus calmes, Luther croyait pouvoir satisfaire Dieu, ce Dieu de toutes les religions, des plus rigoristes aux plus profanes, le Dieu de notre imaginaire, le Dieu terrible et vengeur qui pèse les âmes et les cœurs et attribue à chacun selon ses mérites. Et ce Dieu-là est impossible à satisfaire. Les exigences de ce Dieu-là sont infinies. Comment être juste face à un tel Dieu? Et Luther y mettait pourtant tout son zèle, réalisant toutes les œuvres humaines qu'il est humainement possible de faire, en jeûnant, en priant, en se privant, pour atteindre à la perfection. Il écrira plus tard à propos de cette période de sa vie: j'étais chevauché jour et nuit par une bête féroce et je ne savais si c'était Dieu ou si c'était diable. Quelle terrible angoisse! Il disait aussi: moi qui, vivant comme un moine irréprochable, me sentais pécheur devant Dieu, avec la conscience la plus troublée, et ne pouvais trouver la paix par mes bonnes actions, je haïssais d'autant plus le Dieu juste qui punit les pécheurs. Et je m'indignais contre ce Dieu, nourrissant secrètement, sinon un blasphème, du moins un violent murmure. Cela nous semble bousculer notre foi, mais pourtant, c'est de cette angoisse, de cette confrontation jour et nuit avec ce Dieu terrible que vient le geste fondateur de la Réforme, comme une redécouverte de qui est Dieu vraiment, débarrassé de tout ce terrible imaginaire. Luther vivait, comme Job, accablé de malheur et de désespoir. Après toutes ces années où il tentait de sauver son âme, dégoûté de lui-même et sans doute de ce Dieu-là, dégoûté des marchandages sordides auxquels il était poussé, c'est en lisant la Bible que pour lui, une lumière est venue déchirer les ténèbres. C'est en lisant dans l'Épître aux Romains, au premier chapitre, cette très courte phrase: le juste vivra de la foi, qu'il a entendu autre chose. Que pour lui, un renversement a eu lieu. Dieu fait de nous des justes. C'est ça la justice de Dieu. Il nous rend dignes alors que nous ne l'étions pas par nous-mêmes. Luther avait fini par comprendre ça. Ça n'est pas devenir juste pour que Dieu nous aime. C'est l'exact opposé. C'est être juste parce que Dieu nous aime. Dieu disait à Luther: je n'attends pas que tu sois juste pour m'aimer. Je t'accepte, c'est ça qui te rend juste. Le terme technique, c'est justice passive. Ça veut dire simplement la justice qui se reçoit. Pas celle qu'on atteint par nous-mêmes, mais ce qui se reçoit comme un cadeau, sans avoir à le gagner. Pas de conditions à remplir, pas d'œuvres à accomplir, pas de sacrifices à faire. Nous sommes rendus justes. Ça a l'air de rien. Mais cette révélation, vraiment, a déchiré le ciel, pour Luther et pour nous aujourd'hui, et pour l'avenir. Parce que c'est un autre soleil qui se lève sur nos vies lorsque vraiment nous le croyons. La foi qui naît en nous, c'est un cadeau. C'est la confiance toujours possible. C'est le roc de notre vie, la valeur de notre vie. Comprendre ça, c'est être délivré de tous les dieux obscurs et accusateurs, tous ces dieux qui ne nous aiment qu'à condition que nous soyons conformes, qu'à condition de faire ce qu'il faut. Il ne faut rien. C'est donné. C'est la naissance d'un nouveau Dieu. Alors, Je ne dis pas que la réforme a créé un nouveau Dieu qui viendrait supplanter tous les autres, qui soit meilleur que celui des autres, ça n'est pas ça du tout. C'est plutôt ne plus jamais chercher à enfermer Dieu dans une boîte. Et les protestants, s'ils continuent à protester, le font toujours, doivent toujours le faire pour dire et répéter que Dieu se révèle sous un nouveau jour lorsqu'il vient renverser notre « c'est pas juste ». Parce qu'il y a une autre façon de dire « c'est pas juste ». Pas celle qui cherche à se justifier, mais celle qui est clairvoyante sur le monde. Et vous le savez, tout le livre de Job nous montre ce pauvre Job accablé par le malheur et qui doit en plus faire face à ses amis qui veulent à tout prix lui faire dire qu'il l'a bien mérité, qu'il a bien dû faire quelque chose pour s'attirer tout ce malheur. Et nous, nous savons que ça n'est pas le cas. Nous savons que Dieu fait confiance à Job, toujours. Que c'est Satan qui sème le doute, qui sème la méfiance. Nous avons à dire que le malheur de Job, tous les malheurs qui s'abattent sur l'humanité ne peuvent jamais être justifiés. Rien, jamais, aucune volonté divine ne saurait justifier le malheur. Et il s'agit pour nous, aujourd'hui, de savoir de quel côté nous serons dans ce débat-là. Du côté des accusateurs, ceux qui, pour préserver leur vision du monde, leur peur de Dieu, accuseront les malheureux de leur malheur. Ou du côté de ceux qui, en silence, se tiendront aux côtés des malheureux pour les accompagner dans la faiblesse assumée de leur humanité. Ceux qui disent « tu l'as sûrement mérité » ou ceux qui disent « mais autrement, non, vraiment, c'est pas juste ». Pour revenir au texte de ce matin, sommes-nous les spectateurs outrés, scandalisés que Zachée, bien qu'injuste, soit justifié? Ou sommes-nous Zachée qui se sait impardonnable et pourtant pardonné? Ce petit homme qui cherchait à voir et qui a été vu, qui montait aux arbres pour voir passer le Christ et qui, dans un renversement étonnant, a été vu, lui, vraiment vu, par celui qui passe outre à toutes nos justifications pour s'inviter chez nous. Je crois que le vrai scandale aujourd'hui, ce serait de continuer à maugréer, à ronchonner, parce que Dieu rend juste ceux qui ne le sont pas. Dieu rend juste et digne ceux qui ne le sont pas. C'est un motif de réjouissance. Alors, dire « c'est pas juste » doit maintenant s'appliquer non pas à notre idée de qui est juste au regard de Dieu, ça c'est lui qui s'en occupe, ça s'appelle le salut, ça ne dépend pas de nous, mais doit s'appliquer plutôt aux injustices très réelles qui accablent notre monde. Parce que Dieu accompagne nos révoltes et s'y rend présent. Nous allons bientôt entrer dans le temps de l'Avent. Ce temps où nous disons que Dieu n'est pas resté dans son ciel à juger de loin les petites affaires des humains. Le temps où nous disons que les petites affaires des humains, jusqu'au plus sordide, il les a connues. Il a fait le choix d'entrer dans l'histoire humaine en humain pour vivre tout cela avec nous, dans la faiblesse de la naissance, dans la détresse de la mort, pour que nous n'en restions pas prisonniers, pour que nous puissions traverser tout cela et protester, ne jamais cesser de protester contre ce qui, dans le monde et jusque dans notre propre cœur, voudrait nous faire croire que Dieu est un Satan. Il nous reste à protester pour dire que Dieu, au milieu du monde, vient frapper à la porte et offrir sa justice et sa libération pour nous rendre justes et libre. À ce Dieu-là, à lui seul, soit la gloire. Amen.
Nous entrons dans la liturgie de la scène avec cette proclamation qui est à la fois louange et confession de foi, et je vous invite à vous lever.
C'est notre joie de te célébrer, ô notre Dieu, puissance de vie, d'amour et d'être, élan créateur qui traverse tout l'univers. C'est notre joie de te célébrer pour Jésus-Christ qui a révélé ta présence auprès de tous les humains, par sa compassion, sa puissance de vie, d'amour et d'être. Il a lutté pour l'amour, pour la justice, jusqu'à y perdre la vie. C'est notre joie de te célébrer, ô notre Dieu, pour l'Esprit créateur qui nous fait marcher dans le souffle vivifiant, qui nous donne de vivre ainsi pleinement et aimant de tout notre cœur, engagé dans la vie de l'humanité et uni à l'élan créateur qui traverse tout l'univers. Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de celles et ceux qui se sont confiés en toi, en tout temps et en tout lieu, nous célébrons ton nom. Ô notre Dieu, notre Père. Amen.
Nous allons chanter au cantique 238. Pare-nous pour cette fête, et je crois que nous allons le chanter. Une erreur. Alors, c'est le 230. Oui, c'est le 230, pardon. Et nous le chantons en entier.
L'heure est venue, Jésus se met à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai vraiment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce à et dit, prenez ceci et partagez-le entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna en disant, c'est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il fit de même avec la coupe. Après le dîner, en disant, cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang qui est répandue pour vous.
Je vous invite à prier. Ô notre Dieu, tu es la source de la vie, tu es la source de l'amour. Voici le pain, Voici le vin. Fais monter en nous ton souffle de renouveau. Que rien ne nous écrase, ni la peur, ni la mort, ni l'injustice, ni le péché. Fais au contraire de nous des êtres vivants de ton évangile, réunis dans la foi et dans la construction d'un monde meilleur. Même si nous nous sentons trop petits, tu mettras un arbre, quelque chose sur notre chemin pour que nous puissions reconnaître le Christ qui vient et les visages de celles et ceux qui nous entourent le reflèteront malgré les misères et les douleurs. Même si nous voulons être importants et que nous nous envolons dans de hautes sphères, tu nous lesteras du poids concret de ta parole pour que le Christ s'incarne en nous et nous pourrons devenir les prochains de celles et ceux qui ont besoin de pain, de reconnaissance, de vie. Même si nous nous égarons dans les labyrinthes des codes et des lois, ton esprit se fera entendre en notre esprit, en notre cœur. Aujourd'hui, je viens demeurer chez toi. Et nous ouvrirons nos villes, nos quartiers, nos maisons à celles et ceux qui manquent de repos et d'abri. Puisqu'en toi il y a de la place pour tous, une place pour chacun, nous te confions nos amis dans le deuil, particulièrement Nicole, ses enfants et petits-enfants. Nous te confions nos amis souffrant de maladie ou de manque d'espérance. Nous te confions celles et ceux qui luttent et celles et ceux qui soignent, celles et ceux qui cherchent un sens et la justice et la fraternité. Et ainsi, le Christ nous l'a enseigné. Nous élargissons notre prière en disant ensemble, à voix haute ou dans le secret de notre cœur, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici, dit Jésus le Christ, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Nous sommes tous invités à ouvrir la porte, quelles que soient nos appartenances et nos croyances, en mémoire et en témoignage de confiance, en ce Jésus qui partageait le pain, les joies et les souffrances des humains et leur enseignait ainsi la solidarité. Je vous invite à vous lever, à former un cercle tous autour de ce temple, même si vous ne souhaitez pas prendre le pain et le vin, venez quand même dans le cercle parce que c'est un signe d'humanité. Amis, frères et sœurs, nous rompons le pain. Il est la communion au corps du Christ, à sa vie donnée devienne sienne.
Nous rendons grâce pour la coupe de bénédiction. Le Christ vivant met en nous sa vie pour que notre vie devienne sienne. Nous disons merci pour la coupe. Communion au sang du Christ, à sa vie versée pour nous. Par une alliance sans cesse renouvelée, Jésus-Christ fait couler en nous sa vie, comme un sang nouveau, comme un vin de fête, que notre vie devienne sienne, dans l'espérance et dans l'amour.
Nous allons passer, donner le pain et le vin à chacun de vous. Je vous invite à attendre que tout le monde ait reçu sa part avant de manger le pain et de boire le vin.
Nous prions. Que ce repas, Père, nous donne un nouveau regard sur le monde. Après avoir partagé la scène, nous voulons te rendre grâce en ayant un regard nouveau sur nos frères et nos sœurs, et particulièrement sur ceux qui souffrent. Nous voulons que ce regard nouveau soit comme ton regard, plein de compassion et d'espérance. Alors, à la lumière de l'Esprit, nous partagerons nos joies comme nos peines, nos projets et nos luttes, avec la force et le courage que tu nous donnes. Amen.
Nous regagnons nos places dans la joie du Christ vivant. Une fois que nous serons assis, nous écouterons nos amis gamins.
Thank you.
Merci Célestin, merci à vous tous pour ces rythmes dont nous n'avons pas forcément l'habitude dans nos cultes habituels, mais qui élargissent notre esprit, et merci beaucoup. Voici le moment de partager des annonces. Et d'abord, vous avez entendu tout à l'heure dans l'intercession, nous avons porté notre sœur Nicole dans la prière. Nicole Kraft, qui est ici avec son fils et sa petite fille. Nicole, dont l'époux Guy est décédé vendredi. Il y aura un service funèbre ici dans ce temple jeudi à 15h. Mais en notre nom à tous, soyez vraiment assurés, Nicole, de notre affection, de notre soutien pour vous et les vôtres dans ce temps de deuil. Pour cette journée du culte de la Réformation, eh bien, elle sera suivie demain, en fait, c'est demain le jour de la Réformation, le 31 octobre. Et donc, il y aura demain un autre culte de la Réformation organisé au niveau régional, pour toute la région parisienne, qui aura lieu à 19h30 à l'église luthérienne du Bon Secours, rue Titon, c'est tout près d'ici, dans le 11e arrondissement. Un culte qui est donc préparé par une petite équipe et auquel je participerai aussi, principalement par le pasteur Guilhem Riffaut, qui est pasteur de l'église du Bon Secours, et la prédication sera apportée par le pasteur Pierre-André Dumas, qui est actuellement pasteur proposant à la paroisse de Nanteuil-les-Maux. Donc c'est à 19h30 demain soir à l'église du Bon Secours, rue Titon. Jeudi prochain, le 3 à 12h30, ce sera l'heure de la pause spirituelle, comme tous les jeudis, de 12h30 à 13h30. Et le soir, ce sera le ciné-club. J'ai complètement oublié le titre. Merci Isabelle de venir nous informer du film que notre ami Didier You va projeter jeudi soir.
C'est El Divo de Sorrentino et finalement la vie de la politique italienne. Hein, vous savez que c'est le cycle de la vie politique. Et voilà.
Merci. Ne t'en va pas. Tu auras d'autres annonces. Et puis dimanche prochain, le 6 novembre, il y aura au culte le matin, nous aurons la joie d'entourer deux personnes qui ont demandé à recevoir le baptême. L'une, c'est Zélie, qui est ici, et l'autre, c'est Stéphane Lévesque, un nouveau paroissien, mais qui a préparé ce baptême dans sa paroisse de Luneray, paroisse d'origine, et qui donc maintenant le recevra dimanche prochain au cours du culte au foyer de l'âme. Donc ce sera un jour doublement, même triplement, un jour de joie. Et comme dimanche prochain, c'est le premier dimanche du mois, ce sera également le dimanche de la cantate, à 17h30 dans ce temple, la cantate qui sera dans l'organisateur sera pour dimanche notre ami Frédéric Rivoal. J'ai pas le numéro de la cantate. Bon, vous regarderez dans l'amitié pour avoir tous les renseignements, mais c'est toujours à 17h30. Et dimanche prochain, également comme chaque dimanche, donc comme aujourd'hui, la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. La liste des produits actuellement demandés est affichée dans le temple, mais vous pouvez bien sûr en apporter d'autres, des produits non périssables, évidemment. Isabelle a d'autres annonces au sujet de la fête de l'amitié qui aura lieu le dernier week-end de novembre.
Alors, la fête de l'amitié, ça commence par des lasagnes. Des lasagnes qui sont préparées par Nicole Gigliotti. Et si vous voulez en commander, elle serait très contente que ça puisse être avant le 2 novembre. Alors, si certains d'entre vous souhaite avoir son adresse mail ou alors me passer commande que je lui transmets, eh ben, je crois qu'elle serait très contente parce qu'elle a déjà commencé le travail et il reste de la matière première. Voilà. Ensuite, la fête de l'amitié. Est-ce que tout le monde connaît la fête de l'amitié ? Ce sont les journées du foyer de l'âme, des journées de rencontres et de convivialité avec la communauté camerounaise et la communauté malgache. C'est une des rares moments de l'année, à part les cultes, où on est réunis ensemble. Et peut-être qu'aujourd'hui, ceux qui n'étaient pas au courant pourraient juste noter la date sur leur agenda, le vendredi 25 en fin d'après-midi, le samedi 26 toute la journée et le dimanche 27 toute la journée aussi, jusqu'à 16h30. La semaine prochaine, je vous en reparlerai avec des questions pratiques d'organisation et notamment des demandes pour le buffet. La semaine prochaine. Dominique me parle des commandes pour Vincent Fabre qui propose des plats alsaciens. Mais ces plats alsaciens, il faut les commander, ils seront livrés à la fête de l'amitié. Les lasagnes de Nicole, elles seront livrées le 11 novembre. Donc c'est pour ça que Nicole a besoin des commandes fermes pour le 2. Voilà.
D'accord, donc le reste attendra la semaine prochaine.
Voilà, c'est ça.
Merci Isabelle. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à partager ? D'autres choses à se dire ? Alors, je vous invite au temps de l'offrande, qui est un temps de confiance, qui est un temps de louange et aussi d'espérance. Et c'est ce dont le foyer de l'âme a absolument besoin pour être foyer de l'âme pour chacun et pour tous. Pendant cette offrande, je vous invite à vous lever pour chanter alors le cantique traditionnel de culte de la Réformation, c'est-à-dire le numéro 238. Ah oui, je me suis trompée à cause de ça. C'est maintenant le 238. C'est un rempart que notre Dieu, et nous allons le chanter en entier. Je vous invite, pas à vous asseoir, à rester debout pour entendre l'exhortation. Et puis ensuite, nous chanterons le dernier spontané sur la feuille de culte avant la bénédiction. Et c'est Jean qui va nous dire cette exhortation.
N'oublie pas, c'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras. C'est lui que tu serviras. C'est à lui que tu t'attacheras. C'est par son nom que tu prêteras serment. Il est ta louange, il est ton Dieu. Et par lui, en Christ, le salut entre dans ta maison.